Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'AJT du local pour une nouvelle semaine d'émissions autour de l'actualité en Mayenne. Je suis évidemment accompagnée d'Andy. Salut Andy.
Salut Marie, comment tu vas?
Eh ben très bien, et toi, ton week-end?
Ça va, ça s'est plutôt bien passé, je suis allée à la plage sous le soleil.
Et je pense qu'il fallait, avec la canicule ce week-end de toute façon.
Il faisait un peu plus frais, ouais.
C'est ça, il fallait se baigner, il fallait chercher la fraîcheur où qu'elle soit. Et puis donc en tout cas là il fait un petit peu meilleur et donc on va en profiter pour cette émission où on va parler de l'hôtellerie-restauration qui recrute encore et toujours justement en prévision de cette saison estivale, même si elle commence dans quelques semaines. On va voir que les besoins sont toujours là, on va voir aussi pourquoi et on va revenir aussi sur cette journée intergénérationnelle qui a eu lieu à l'Huisserie il y a quelques jours à l'occasion et à l'initiative surtout de l'association de la retraite sportive à Laval et à Laval Agglomération. Et puis on va parler du 9e Festival des Baldi Folies à Baie. Il a lieu ce samedi et on va en parler avec l'une des organisatrices de ce festival qui sera avec nous en studio. Et puis, comme chaque lundi, tous les 15 jours, un lundi sur deux, donc la Ligue des droits de l'homme en Mayenne nous propose sa chronique, une chronique dédiée aujourd'hui à la vidéosurveillance. Mais on va commencer d'abord par un point sur l'actualité avec toi, Andy. Et forcément, on commence par les législatives et les résultats d'hier. Guillaume Garot et Géraldine Bagné réélus pour la première et la deuxième circonscription de la Mayenne.
Pas de surprise après la réélection de Yannick Favennec dès le premier tour la semaine dernière. Donc sur la première circonscription, c'est Guillaume Garot du Parti Socialiste, représentant de la NUPES, qui l'emporte face à Béatrice Mottier avec 63,22% des suffrages exprimés. L'abstention s'est élevée à 53,88% sur cette circonscription. Sur la deuxième, c'est la candidate de la majorité présidentielle, Géraldine Bagné, qui est élue avec 58,62% des voix face à Grégory Boisseau de la NUPES, 53,85% d'abstention sur cette circonscription.
Un accident tragique à Marigné-Peuton dans la nuit de samedi à dimanche.
Peu avant 4h du matin, une collision très violente a provoqué le décès de 3 personnes, un couple de 26 et 31 ans et un homme de 19 ans. L'intervention des secours a été très longue, notamment l'opération de désincarcération. Cet accident porte au nombre de 6 décès sur les routes mayennaises depuis le début de l'année et des analyses toxicologiques vont être réalisées sur le corps des 3 victimes pour en savoir plus sur les raisons de ce drame.
Une première marche des fiertés à Laval.
Près de 2000 personnes ont défilé dans les rues de Laval sous 37 degrés. Le défilé a débuté par une boucle rive gauche, puis le cortège est passé par le vieux Laval. À travers cette marche, la communauté LGBTQ demande plus de respect et de bienveillance en Mayenne.
À Louvernay, une partie de la rue nationale s'est affaissée après le passage d'un bus.
C'est l'axe le plus important de la commune. Des pavés ont sauté et la route s'est fissurée. Cette zone au niveau de l'église est interdite à la circulation et une déviation a été mise en place. Sylvie Vielle, la maire de Louvernay, se dit inquiète car un réseau d'eau usée passe en dessous. La société Eurovia devrait intervenir aujourd'hui pour faire un premier constat.
Et ça y est, on connaît les deux premières recrues du Stade Lavallois.
La première s'appelle Pape Djibril Dio et est âgé de 26 ans. Il arrive en prêt en provenance du club ukrainien Ruk Lviv. Le joueur d'1m94 renforcera les tangos en défense centrale. Et la deuxième recrue se nomme Steven Nzimba. Il est lui attaquant en provenance de Bourges en National 2. Un pari tenté par le club sur ce jeune joueur de 24 ans, auteur de 16 buts en 30 matchs la saison dernière.
Le boxeur mayennais Jordi Weiss remporte son combat à l'unanimité.
Le Vénézuélien Ivan Matute n'a rien pu faire vendredi soir face au Mayennais qui était à domicile à l'Espace Mayenne. Jordi Weiss compte maintenant 29 victoires pour autant de combats. Le prochain aura lieu le 29 octobre, toujours à Laval.
Les restaurateurs et hôteliers toujours à la recherche de main-d'œuvre. Un job dating a été organisé la semaine dernière par l'UMI53, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Mayenne. Plusieurs établissements y ont participé, dont le Parc Hôtel à Château-Gontier. Et Mathéo a rencontré la responsable du Parc Hôtel et un professionnel qui recrute lui aussi pour évoquer ce manque de bras, encore plus important pour cette saison que pour les précédentes.
Bonjour, donc je m'appelle Anne-Laure Alléard, je suis responsable du Parc Hôtel à Château-Gontier ainsi que du Clos de l'Orgerie Original Hôtel. Et donc aujourd'hui, on organise avec mon principal syndicat en hôtellerie-restauration, CHRD, ce qu'on appelle CHRD, un job dating, pour recevoir un maximum de personnes et présenter les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, du bar, des discothèques. Alors, en fait, on a voulu vraiment marquer le coup avec notre syndicat, expliquer qu'effectivement, il y a beaucoup de postes à pourvoir, hein, que ce soit partout en France, mais aussi en Mayenne. Nous sommes tous professionnels et nous avons prêté nos établissements pour que nos collègues hôteliers, restaurateurs, bars, discothèques viennent présenter leur métier à des jeunes qui vont se présenter.
Est-ce que, par exemple, vous, personnellement, vous recherchez du monde ou pas du tout ?
Alors, pour l'instant, non, parce que j'ai une équipe stable, mais c'est vrai que ça peut toujours bouger pour quelque raison que ce soit. Donc c'est plus moi dans un objectif de présenter nos métiers qui vraiment sont des métiers de passion et où on peut travailler, on peut voyager, on peut évoluer rapidement. Toute l'activité est repartie dans tous les domaines de l'hôtellerie, restauration, bar et tout ça. Les gens ont envie de profiter, ont envie de ressortir, donc effectivement il y a du travail. Après, en Mayenne, on a un souci de chômage incompressible, bah, c'est ce que nous dit le Pôle emploi. Donc on n'a pas de chômeurs ou tellement peu que c'est pour ça qu'on ne trouve pas. Moi j'aimerais bien qu'on fasse mentir cet état de fait et qu'en fait on puisse faire découvrir nos métiers à des gens qui ne pensaient peut-être pas que c'était aussi attrayant et aussi agréable. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à venir à ce genre de réunion. On est là, nous les professionnels, pour donner envie.
Alors, oui, bonjour, Gabriel Germain. Je suis le gérant associé du restaurant Le 2M à Château-Gontier. Voilà, une brasserie ouverte 7 sur 7, midi et soir. Et je suis ici pour le job dating, pour recruter des personnes. C'est important déjà d'une de partager, rien que de faire connaître nos métiers, les métiers de bouche, que ce soit serveur ou cuisinier. Et ce serait une surprise pour personne, mais on recherche du monde, que ce soit principalement en cuisine plus qu'en salle. Il y a eu un grand changement dû au Covid déjà, premièrement, bien sûr. Il y a une nouvelle génération de jeunes qui cherchent aussi également le confort de vie plus que le métier, que la vie professionnelle, ce qui peut être tout à fait compréhensible. Et puis, bon, il y a ce désamour un petit peu pour la restauration, qui est un métier réputé difficile, parce que bah, il y a les coupures, les services sont longs, on finit tard le soir, il y a des heures, donc voilà, on souffre d'une mauvaise image qui aujourd'hui n'est plus le cas, parce que nous, aujourd'hui, on est comme une entreprise comme les autres, on a des pointeuses, les heures sont notées, on fait tout au maximum pour le confort de vie des salariés, une politique d'entreprise pour faire en sorte qu'ils se sentent bien, donc on est là pour partager ça. Aujourd'hui, on est prêt à former n'importe quel jeune, ou pas jeune d'ailleurs, remarque, qui est prêt à se lancer dans ce métier. Tout ce qu'on recherche, c'est de la motivation, un peu côté passion aussi, un petit côté passion pour la cuisine et le service. Et après, nous, on forme sur place.
Alors que la saison estivale approche, de nombreux restaurants recherchent donc encore des cuisiniers ou des serveurs. Les offres d'emploi sont à retrouver sur des sites comme Indeed ou Hello Work. Des retraités et des enfants mélangés au sein d'une même équipe le temps d'une journée sportive à l'huisserie. Elle a eu lieu jeudi dernier à l'initiative de l'association de la retraite sportive de Laval Agglo qui fête ses 30 ans. Avec 6 classes d'élèves de CM1, CM2 de l'huisserie et de l'école Jacques Prévert à Laval, après un défilé sous l'hymne olympique, symbole de cette journée, ils ont testé le disc golf, la gym mémorielle ou encore le tennis en équipe. Reportage sur place.
Loïc Bedouet, président de la retraite sportive de Laval Agglo. L'idée, c'est d'aller de sport en sport. Nous présentons 6 sports que ces jeunes vont faire en équipe. Et dans chaque équipe de jeunes, il y aura un senior. Et donc l'idée, c'est bien cette rencontre intergénérationnelle, cette rencontre entre des gens qui ont déjà vécu et puis des jeunes qui sont l'avenir. Alors des sports très innovants, comme par exemple le disc golf, qui sont les nouveaux, ou le foot golf, et puis des scores plus classiques, comme par exemple le tennis ou bien la pétanque. Ce qu'il faut qu'ils retiennent, c'est d'abord que ce qui est important dans une société comme la nôtre, c'est de vivre ensemble, et que la rencontre entre les générations, c'est quelque chose d'important. Qu'ils retiennent également quelques valeurs qu'on a envie de leur passer, comme les valeurs de l'olympisme, les valeurs du sport, les valeurs de la solidarité, d'une équipe, etc. Je pense que ça aussi, à des enfants, c'est important.
Bonjour, c'est William. Bah, je suis très content d'être ici. Je m'amuse bien, même si c'est déjà que le premier exercice. On a une raquette, tu poses une balle dessus et tu dois aller jusqu'à un plot. Et puis après, on tourne autour du plot et on revient en marche arrière. Moi, je trouve que c'est un peu facile, faut juste bien se concentrer sur la balle.
Nelly, oh bah super, moi j'ai une équipe extraordinaire. On a déjà gagné un point. Ouais, on est tous là. Ouais, on est. Non, ça se passe très bien. Ils sont super sympas. Puis c'est agréable d'encadrer des jeunes. Ça nous rajeunit. Moi, j'ai mes petits-enfants. Donc, ils ont à peu près les mêmes âges. Un petit peu plus jeunes, mais enfin bon, c'est les mêmes âges, donc ça se passe bien.
On n'est pas sur la compétition, mais on est toujours sur l'idée quand même que le dépassement de soi, c'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant. Et c'est aussi des valeurs, on peut dire qu'il y a aussi des valeurs que porte l'école. C'est-à-dire, effectivement, chacun a sa place, chacun essaie de se dépasser, de trouver sa voie. Et donc, c'est tout à fait révélateur de ce partenariat de qualité.
Et le dernier intervenant que vous avez entendu, c'est Denis Valex, le directeur académique de la Mayenne. La journée s'est terminée par une grande flash mob, celle des JO de Paris 2024. Cette première édition d'une journée intergénérationnelle pourrait être reconduite l'an prochain.
Et on va s'intéresser dans quelques instants au festival des Baldifolies. On revient juste après Six Days in June de The Fratellis.
We'll be right back.
venons d'écouter The Fratellis, Six Days in June, avec mon superbe accent anglais, dans la JT du local. Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio. Et puis on va rester en musique avec le Festival des Belles Folies, donc qui revient ce samedi pour une 9e édition à Baie. Et on reçoit pour en parler Adélaïde Vivien, qui fait partie des organisateurs de l'Harmonie de Baie, en charge de la communication. Bonjour.
Bonjour.
Et donc justement, on va parler de ce festival qui revient, je le disais, samedi, avec beaucoup, beaucoup de choses au programme. Et notamment, c'est assez impressionnant, près d'un millier de musiciens, une trentaine de groupes. Tout ça en une journée, puisque ça commence à partir de 15h30, et j'imagine jusqu'au bout de la nuit. Ça a toujours été un peu la formule du festival depuis ses débuts ?
Ça a toujours été la formule. Le but du festival, c'est vraiment mettre en avant la musique amateur et de faire partager... justement cette musique amateur au public, à tout public, que ça soit pour les jeunes et pour les moins jeunes, ce qu'on a vraiment de tous les styles, en passant de l'orchestre à l'école jusqu'à des groupes de banda, de chorale, on a vraiment de tous les styles. Et le but, c'est vraiment faire rayonner la musique amateur du département de la Mayenne.
Puisque effectivement, lorsque le festival est né en 2005, ça a vraiment été, et ça l'est toujours, impulsé par l'Harmonie de Baie. L'idée, c'était aussi de mettre en valeur ce que peuvent faire au quotidien les élèves de l'Harmonie et tous ceux qui y participent.
C'est ça, ça permet de montrer vraiment ce qui est fait justement dans le département et ce qui peut être fait par des personnes qui vont jouer de la musique juste pour le plaisir, vraiment partager... un moment convivial, c'est le but aussi du festival, et que montrer que la musique aussi ça peut être sympa que par la passion aussi.
C'est ça, donc tous ceux qui répètent tout au long de l'année, là c'est aussi le point d'orgue j'imagine avec ce festival. Donc né en 2005 je le disais, j'imagine que ça commençait plus petit par rapport à ce que ça peut représenter aujourd'hui.
Oui, ça a commencé en 2005, c'est sûr qu'en 2005 c'était beaucoup plus petit. C'est vrai que maintenant on arrive avec environ 4500 spectateurs sur la soirée. Pour cette édition, on espère bien augmenter un peu le nombre de spectateurs et pourquoi pas atteindre les 5000 spectateurs. Mais c'est vrai qu'on évolue et le festival grandit au fur et à mesure des éditions.
Au fur et à mesure des éditions, sachant que celle-ci, j'imagine qu'elle est d'autant plus attendue que la dernière remonte à 2019, c'est ça ?
C'est ça. On est heureux de pouvoir justement faire cette 9e édition qui a dû être reportée l'année dernière à cause de la pandémie. Et du coup, on est plus motivés que jamais justement à faire cette édition parce que c'est vrai que tous les groupes de musique ont été un peu bloqués par la pandémie. On n'a pas pu jouer, on n'a pas pu pratiquer comme on le souhaitait. Et donc, on est heureux là de pouvoir reprendre ce samedi 25 juin et de justement regrouper tous les musiciens pour ce festival.
Est-ce que ça a été facile justement de reprogrammer ces musiciens après 2 ans de pandémie, 2 ans d'arrêt du festival en tant que tel ? Est-ce que déjà, ils étaient toujours motivés ? Bon, ça, j'imagine que oui. Et est-ce que ça a été facile justement de retrouver une date où ils étaient disponibles ?
Eh bien, il y a de la motivation au niveau des groupes, justement, parce que tout le monde est heureux de pouvoir se représenter devant un public. C'est vrai que ça fait du bien, ça fait plaisir. Et au niveau de tout le reste, la date, en général, en fait, c'est tout le temps la même date fixée depuis 2005. C'est toujours ce week-end de juin qui est privilégié pour les Baldi Folies. Donc, c'est vrai que c'est une date qui est marquée un peu dans les agendas... tous les 2 ans, puisque le festival a lieu tous les 2 ans, et donc c'est un peu comme un rituel au niveau du village de Baie.
Bien. Donc effectivement, un rituel qui a été facile à reprendre, j'imagine. Au niveau de cette programmation, si on va un petit peu plus dans le détail, il y a donc, on l'a dit, l'Harmonie de Baie, d'autres orchestres aussi. C'est aussi l'occasion donc pour des musiciens plutôt amateurs là, de se produire sur scène. Il y a notamment tout un projet jazz au Baldi Folies avec des classes orchestres. Donc là, on parle de très jeunes musiciens pour le coup, puisque ce sont des collégiens de ce que j'ai lu d'Ambrières-les-Vallées, de Baie, de Goron, de Mayenne et de Renazé. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce projet, en quoi ça consiste ?
Alors, ça permet d'inciter donc les jeunes collégiens donc à commencer donc la musique. Donc ça existe dans plusieurs collèges de la Mayenne et là ce projet, ça permet aussi de les initier à un nouveau style de musique, mais aussi de créer un moment d'échange donc entre les différentes orchestres à l'école du département. Et là pour le coup, il y a l'intervenant Johan Lefebvre qui intervient justement pour les initier à cette musique jazz. Et donc ça fait vraiment un temps d'échange.
Et donc là, ils vont tous, comment ça va se passer très concrètement? Ils vont tous se retrouver sur scène dans le cadre de ce projet-là?
Donc ils vont se retrouver sur scène durant le festival. Donc ce qui va vraiment pouvoir, ils vont pouvoir se représenter, présenter ce qu'ils ont travaillé au long de l'année et montrer leur travail.
Justement, donc effectivement, on l'a dit, des tout jeunes musiciens, là, pour le coup. J'imagine qu'il y a aussi des formations où, un petit peu plus âgées, forcément. Enfin, par définition, des collégiens, c'est forcément les plus jeunes sur ce festival. Donc, on peut retrouver, j'imagine, l'harmonie de baie, d'autres orchestres aussi, d'autres formations.
Alors, au niveau des orchestres, des autres formations, on accueille aussi donc, les Conic Brass Band, donc, qui a justement gagné le championnat de France cette année dans leur division donc, au mois de février. Et justement, ils se produiront avec un tout jeune groupe, un mini un peu brass band. Donc, je ne veux pas me tromper sur le nom, c'est Zecobeto, il me semble.
Zecobeto,
je crois. Une petite échange de syllabes, mais du coup, ils se produiront donc avec des jeunes, ce qui va permettre de faire justement un temps d'échange entre entre guillemets, plus anciens, donc plus avancés dans la formation musicale, et des plus jeunes sur le temps du festival. Donc, ce qui est aussi sympa, de se montrer que la musique, ça peut rassembler les jeunes et les moins jeunes en même temps sur scène.
De ce que vous en savez, ils ont répété avant ou ensemble, ou là ce sera vraiment chacun à répéter de son côté et la grande réunion des deux?
Ils se sont déjà produits ensemble, ils avaient fait un concert il y a quelques semaines de ça à Mêlée du Maine, dans le sud Mayenne, justement dans le coin d'où s'est créée un peu la formation. Et donc là, ça sera une autre présentation.
Oui, donc ils ont déjà, déjà l'habitude en tout cas. Justement, ça fait partie des objectifs du Festival des Belles Difolies de mêler justement sur scène aussi bien des formations qui ont plus d'expérience que d'autres, de créer ces moments de partage aussi qu'on ne retrouve pas forcément tout au long de l'année.
Oui, c'est aussi ça le but du Festival des Belles Difolies, c'est aussi permettre aux plus jeunes qui commencent de pouvoir découvrir des ensembles un peu plus expérimentés, on peut dire ça comme ça, et ce qui permet aussi de créer des temps d'échange. Le festival, c'est aussi créer des temps d'échange, permettre de faire découvrir aux personnes des ensembles, de montrer, de mettre au grand jour la musique amateur et vraiment que les plus jeunes rencontrent des plus anciens et pourquoi pas donner l'envie de venir dans ces groupes jouer.
Ah oui, c'est ça, c'est aussi recruter pour la saison prochaine, c'est un peu l'objectif. Et puis, il y a une première aussi cette année avec, dans la programmation, des musiciens traditionnels, en l'occurrence le bagad de Fougères et la batterie fanfare de Fougères également. Pourquoi avoir fait ce choix de les inviter pour cette 9e édition?
On s'est dit, pourquoi pas inviter un groupe justement un peu plus traditionnel qui change et qui viennent du coup d'un autre département, puisqu'ils viennent de l'Ille-et-Vilaine, et ce qui permet donc de faire une nouvelle animation, faire une petite nouveauté, un peu sortir de ce qu'il y a habituellement et donc faire découvrir un nouveau style de musique aux spectateurs.
Donc effectivement, faire découvrir un nouveau style de musique, peut-être aller toucher aussi d'autres festivaliers, d'autres spectateurs qui ne viendraient pas peut-être autrement. Justement, comment est-ce que vous définiriez le public que vous visez?
Nous, le public qu'on vise, c'est des personnes qui ont tout simplement envie de s'amuser, passer du bon temps, parce que c'est vraiment un cadre qui est champêtre, qui est sécurisé. Et c'est vrai que dans le public qu'on accueille, on a vraiment un public très large. Quand on dit qu'on accueille tout public, qui est accessible à tous, c'est vraiment que c'est un festival où on peut venir très jeune, venir écouter de la musique, mais on peut venir aussi en étant beaucoup plus âgé. C'est vrai qu'on est vraiment très ouvert et on voit au fur et à mesure des éditions et toutes les éditions, on voit justement ce public qui est très vaste, du plus jeune au moins jeune, et c'est ça qui fait plaisir.
donc très accessible aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est important pour les spectateurs, c'est que l'entrée est gratuite. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de billets à prendre sur place. Mais vous pouvez compter aussi pour l'organisation sur plus de 180 bénévoles, c'est ça ?
C'est ça, on a toute une équipe de bénévoles qui nous aide, nous accompagne dans la réalisation du festival. Ça se décline en plusieurs commissions puisque sur place nous avons la restauration et buvette qui est proposée. Et donc c'est vrai que là ça y est, ils commencent dès cette semaine à travailler parce que c'est un travail aussi en amont. On travaille sur le festival depuis plus d'un an voire plus puisqu'on avait commencé à préparer pour l'année dernière. Et donc c'est vraiment toute une équipe de personnes en t-shirt bleu. D'ailleurs, samedi prochain, on pourrait les repérer assez facilement avec un petit t-shirt bleu aux couleurs des Ballifolie sur le festival et qui sont prêts à accueillir tous les spectateurs avec le sourire, dans la bonne humeur pour servir.
Donc ça permet aussi de fédérer, j'imagine, aussi bien les musiciens d'harmonie que les habitants de Baie ou des environs en tout cas. Il y a pas mal de locaux, j'ai l'impression.
Oui, on a pas mal de personnes du coin qui nous aident dans les bénévoles. Et c'est vrai que ça permet de mélanger musiciens de l'harmonie de Baie, mais aussi personnes du village de Baie, mais aussi des alentours qui ont... On commence à avoir un large panel au niveau des bénévoles qui viennent de très loin, qui peuvent venir presque jusqu'à Laval. Donc c'est ça qui est très intéressant, parce que même entre bénévoles, du coup, on rencontre de nouvelles personnes, on échange, on discute, et ce qui est très sympa. Et c'est vraiment une ambiance très cool, très sympathique.
Et justement, j'imagine que c'est pas votre première édition à laquelle vous participez. Quels souvenirs, vous, est-ce que vous en avez peut-être des premières éditions ou de toutes celles auxquelles vous allez participer ? S'il y avait une image ou un souvenir qui vous revenait, lequel ce serait ?
Alors, pour moi, parce que j'ai grandi du coup avec le festival, quand la première édition avait lieu, moi j'avais que 4 ans. Donc, c'est vrai que le souvenir pour moi, c'est l'événement justement du village, c'est la grande fête de musique où on va rencontrer du monde qu'on connaît, et c'est vraiment, on passe du bon temps et on va écouter des groupes. Je sais que j'ai découvert plein de groupes de musique par le biais du festival, et c'est vraiment une ambiance très bonne enfant, très sympa. Et pour moi, oui, c'est la fête de la musique qui a lieu vraiment tous les 2 ans, et c'est l'événement à ne pas rater.
Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie après de vous investir et d'intégrer l'harmonie de Baie, ou pas du tout ?
Ça m'a confortée dans l'envie de jouer de la musique, parce que j'ai un peu toujours été baignée dedans, mais c'est vrai que ça donnait envie justement de pouvoir être sur scène, de jouer avec les musiciens, et c'est vrai que ça donne une petite envie, ça fait toujours plaisir.
Eh ben merci beaucoup en tout cas, Adélaïde Vivien, de nous avoir présenté cette 9e édition du Festival des Ballifolie. Donc l'entrée est gratuite, c'est à partir de 15h30 ce samedi près de la salle polyvalente de Baie.
C'est ça.
Exactement. Et il y aura notamment, entre autres, sur scène, le Bagad de Fougères. Alors en breton, Bagad Brofelger, je ne sais pas si je prononce bien, est-ce que...
Je ne sais pas, je ne fais pas de breton non plus.
Bon, on va dire le Bagad de Fougères. Et là, pour vous donner un petit aperçu de ce que ça peut donner sur scène, eh ben, je vous propose d'écouter un morceau qu'ils ont joué lors d'un concours à Vannes, c'était en mars 2019. c'était un morceau joué par le Bagat de Fougères que vous pourrez retrouver pour la 9e édition des Baldifolies. Ce sera à Baie ce samedi à partir de 15h30. On va passer à la chronique de la Ligue des droits de l'homme en Mayenne qui, vous le savez, intervient dans cette émission un lundi sur deux. Et aujourd'hui, les membres de l'association nous parlent caméras et vidéosurveillance dans le département ici en Mayenne, mais aussi ailleurs. Aujourd'hui, nouvelle chronique de la Ligue des droits de l'homme en Mayenne. Bonjour Alain Voisin.
Bonjour.
Et aujourd'hui, on va parler vidéosurveillance.
Et oui, parce que depuis plusieurs années, les pouvoirs publics sont tentés d'installer des caméras pour surveiller les espaces publics, les rues, les places, les parkings. Ces systèmes de surveillance sont parfois demandés par les habitants qui voient dans ces outils de surveillance quelque chose qui les sécurise.
Et alors, comment la Ligue des droits de l'homme voit-elle ça ?
Nous avons un regard critique sur l'installation de ces caméras de surveillance. Tout d'abord, il faut s'interroger sur leur réelle utilité pour la sécurité des espaces publics. S'il s'agit de lutter contre la délinquance ou les trafics, la vidéosurveillance ne sert à rien, car les trafics ou les infractions sont commises en dehors du champ des caméras. Quant aux petites incivilités, là aussi, peu d'effets, et pour les empêcher, il faut plutôt miser sur l'éducation et la promotion du civisme. Ainsi, l'argument premier pour justifier les caméras de surveillance, qui consiste à dire que c'est un moyen pour faire reculer la délinquance et sécuriser l'espace public, ne tient pas.
Ces installations sont-elles réglementées ?
Oui. Il faut rappeler que l'installation de caméras tournées vers la voie publique est réglementée, et cela pour préserver les libertés publiques et les libertés individuelles. Ainsi, la mise en place d'une caméra devant son domicile par un particulier pour surveiller le trottoir est totalement illégale. La mise en place de caméras par une commune pour surveiller la voie publique est soumise à des autorisations et se doit de respecter des règles précises pour garantir les libertés individuelles. Ainsi, les lois et les règlements sont particulièrement précis et contraignants pour les porteurs de projets de surveillance, et c'est heureux, car il s'agit bien de préserver les libertés. En France, c'est la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui est chargée de veiller au respect des règles. Et si des citoyens constatent ou ont des doutes sur le respect des règles, ils peuvent saisir la CNIL.
Mais les technologies avancent et la surveillance électronique est de plus en plus performante.
Et oui, et du fait de ces possibilités techniques nouvelles, des responsables politiques considèrent que ces règles et ces contraintes doivent être remisées car, au regard des évolutions des techniques, elles ne seraient plus appropriées. C'est vrai que les technologies de surveillance permettent désormais de faire beaucoup. La reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation des voitures, l'identification des personnes à partir de leur visage, ce qui est appelé la reconnaissance faciale. Il y a même des systèmes qui seraient doués de facultés pour reconnaître les émotions et ainsi détecter une personne en colère ou agressive. Bref, les apprentis sorciers des technologies de surveillance ont des idées et des solutions sécuritaires toujours plus détestables, inspirées des pratiques en vigueur dans des régimes dictatoriaux où la surveillance généralisée de la population est le moyen du pouvoir. Un rapport sénatorial récent, après d'autres documents de prospective, met en avant les capacités des caméras de surveillance pour la reconnaissance faciale et ce, pour en faire admettre le principe d'usage.
Et alors, localement, où en sommes-nous ?
Dans plusieurs petites communes mayennaises, la question de l'installation de caméras de surveillance est venue en discussion. Certaines, peu nombreuses, ont installé des caméras de surveillance. Et nous avons pu constater des pratiques très préoccupantes, comme cette caméra qui aurait surveillé les allées et venues de tous les habitants dans un lieu dit de 50 habitants, alors que les images captées auraient été accessibles à quelques personnes, certes élues municipales. Ainsi, une partie de la population se donnait le pouvoir de surveiller une autre partie de la population. Au final, ne faut-il pas se poser la question de l'utilisation des outils qui permettent la surveillance de la voie publique ? Sont-ils nécessaires ? L'obsession sécuritaire ne conduit-elle pas inexorablement vers une société de contrôle et de surveillance généralisée ? Ce n'est pas ce que nous voulons. Ce n'est pas ce que veulent la majorité des gens, car en ce pays, nous sommes exigeants quant au respect des libertés. Alors, soyons vigilants.
Merci Alain Voisin. Et vous pouvez réécouter cette chronique dans le podcast de nos émissions L'Agité du Local. C'est bien sûr sur notre site, sur l'autreradio.fr. L'autreradio.fr, oui, je vous le disais, vous pouvez donc réécouter cette émission puisque ça y est, elle touche à sa fin. Salut Andy, à demain.
Salut Marie, à demain.
On se retrouve demain évidemment pour une nouvelle émission, mais d'ici là, restez avec nous puisqu'à 19h, il y aura Solénoïde. Ce sera suivi à 20h de la discothèque de Morgane aujourd'hui. Et puis nous, on se retrouve et on se trouve aussi demain à 12h15. Je vous souhaite une très belle journée.